On est dans Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. Est-ce que on a besoin de Bible? On a des Bibles ici. Hop, on a nos Bibles. Donc, qui veut une Bible pour pouvoir suivre, j'encourage de suivre avec la Bible. On va vous en dire la page, dis la page et la page. Huit, si vous voulez vous approcher pour l'aider à voir, tu peux, bah, on peut se déplacer. Bon, les deux, ça sera moins bizarre. Page 896, Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. Là, je l'ai aussi sur le texte. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. On va le relire. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es éternel, c'est toi qui es bon, qui es saint, qui es juste, c'est toi qui haïs le mal, Seigneur Dieu, tu aimes le bien et tu ne fais que le bien. C'est toi qui es patient à l'égard de tant de mal ici-bas sur terre. Et les hommes se demandent pourquoi, où est la justice? Et Seigneur, tu patientes et tu dis dans la Bible où est la justice et que la justice va venir un jour, tu vas juger toutes choses. Mais tu ne désires pas juger, tu désires sauver du péché. Tu désires transformer les cœurs pour qu'on ne soit plus esclaves du péché. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour d'autres, tu peux le faire pour quiconque ici est toujours sous l'esclavage de leur péché et ayant besoin d'être et une nouvelle créature. Seigneur, merci pour ta parole. Merci qu'elle est la vérité. Aide-moi de bien la proclamer droitement, Seigneur Dieu. Et merci de nous présenter Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, justement. Amen. Donc, on a ici... Le grand et seul unificateur, donc, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut prendre ces deux dames qui avaient une réputation d'être pas toujours d'accord et pas toujours de même avis. Et Paul leur dit, hey, oubliez votre avis personnel. Ah, je sais pourquoi. Mon ordinateur est aussi branché sur WhatsApp. C'est pour ça que ça sonne aussi directement là-dessus. Bon, ça va... On va y arriver. Donc Paul il leur dit, oubliez ça, soyez d'un même sentiment dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui divise? Qu'est-ce qui divise? C'est l'intérêt propre. C'est quand on a chacun son propre idée. Quand moi je pense que, et on a chacun son propre idée. Et entre vous et moi, on sait que nos propres idées, hein, ça ne va pas toujours dans le même sens. Ésaïe 53, 6. Page 557. La définition même du péché. Quel est-il? 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça, c'est le mal. Je ne m'en rappelle plus. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, les péchés, verset 5, ils sont décrits comment au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Faire à notre tête le péché. Suivre nos propres voies. Et l'Éternel a frappé pour l'iniquité de nous tous. Quand on suit notre propre voie, c'est l'égoïsme, c'est la haine, c'est le manque, c'est on n'est pas concerné par les autres. On va retourner dans Philippiens chapitre maintenant 2. On l'a vu il y a un nombre de mois maintenant. Philippiens chapitre 2, c'est quasiment le verset le plus triste de la Bible. Philippiens chapitre 2, verset 21, c'est page 895. Philippiens 2, 21. Qui veut lire? Et Philippiens chapitre 2, verset 21, oui.
Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt au nom de ce péché.
Voilà le verset le plus triste de la Bible. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Maintenant, il y a un refrain dans la Bible qui va revenir plusieurs fois. Dans Ésaïe 47. Ésaïe 47, 8 et 10. Ésaïe 47, je ne sais pas si Nathan l'avait compris tout à l'heure. Peut-être avec ton téléphone. Veux-tu WhatsApp vidéo Laura, si elle a quelques minutes, elle pourra aider. Tu peux voir. Ésaïe 47, versets 8 à 10. Ésaïe 47, 8 à 10. Essayez de trouver le refrain. C'est répété deux fois dans ces deux versets. Écoute maintenant, il parle de Babylone. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur. Moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privé d'enfant. Ces deux choses arriveront subitement au même jour. La privation d'enfant et le veuvage, elles fondront plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science sont longtemps séduites. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Quel est le refrain? Moi et rien que moi. Moi et rien que moi. C'est dit, ça dit la même chose dans Ézéchiel. Je ne l'ai pas devant. Ah oui, je l'ai devant moi. Dans Ézéchiel aussi, ce refrain ressort. Moi et rien que moi. Maintenant. Qu'est-ce qui unifie? Si l'égoïsme nous divise, chacun suit sa propre voie, qu'est-ce qui unifie? Ben c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui puisse faire cela. Tout autre unificateur. Est-ce qu'il y a des causes dans ce monde qui unit les gens?
Ah, oui. Il y a le sport, parfois les clubs sportifs, là on s'unit pour la cause du sport, ça donne un coup de vie, ça donne des beaux moments. Allez, on s'unit.
Il y a le crime, malheureusement, le crime, hein.
Il y a des gangs, là, qui cherchent à être unis, à pouvoir contrôler les gens. Et l'union fait la force, alors ils s'unissent ensemble pour avoir plus de puissance, pour contrôler plus de gens.
En Haïti, c'est dirigé par les gangs en ce moment. L'unité, mais toutes ces unités-là, ça ne dure pas longtemps. Regardez dans Proverbe 1. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1. Toute unité, à part Jésus-Christ, ça ne va pas durer longtemps. Ça va faire son temps, puis se désagréger, ça va tomber, ça va casser. Verset 10, Proverbe 10, page 478. Page 478, Proverbe 1. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, Est-ce que c'est pas un cri pour l'unité, ça? Viens avec nous! Joins-toi à nous! On s'entend bien, nous autres, ensemble, on a un but commun. Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. On va profiter du faible. On va profiter de celui qui veut simplement s'en tenir tranquille. Ben nous, on ne va pas le laisser tranquille, on va prendre ce qui est à lui. Engloutissons-les, vivants, vifs, tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. N'est-ce pas? En Guyane, on ne connaît pas ça? Ah, viens, sois une mule. Tu vas faire de l'argent. Joins-toi à nous, là. Nous, on va te faire réussir. Tu vas avoir de l'argent. Tu vas devenir riche vite. Mais est-ce que ça dure? Verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jettons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Alors le Salomon ici qui écrit les proverbes, inspiré de Dieu, il leur dit, hey, ne réponds pas à cette tentation. Pourquoi? Parce qu'il dit, viens avec nous, on va dresser des embûches. Salomon dit, attention, parce que les embûches qu'il dresse, c'est lui qui va tomber dedans. Lui va se faire avoir par son mal. Ne te joins pas à quelqu'un qui va s'auto-détruire. C'est contre son propre sang qu'il dresse des embûches, il dit. Verset 19, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Vous savez, quand on se joint à quelqu'un qui dit « Viens », ben tu ne sais pas que la même façon qu'il veut détruire quelqu'un d'autre, il veut aussi te détruire pour ne pas devoir partager entre le propre butin. Mais ça, il ne va pas te le dire au début. Hein? On ne peut pas faire confiance vraiment à quelqu'un qui fait le mal pour s'enrichir. On ne peut pas faire confiance du tout, ça va finir par se désagréger. Et si dans la patience de Dieu, ça ne se désagrège pas avant le jugement de Dieu, Dieu va s'assurer que cette voie-là, elle se désagrège. Elle tombe en ruine. Et regardez ce que j'ai vu un jour en marchant dans Carrefour. Un beau jour, je sors avec mes emplettes là de Carrefour et je vois un panneau. C'est en anglais. Love yourself, others will follow. Aime-toi, les autres vont suivre. Ah, oui. Si je m'aime, tout le monde va dire, hey, t'es merveilleux, je vais t'aimer aussi. Merveilleux, je vais avoir une grande personne. Une grande suite de personnes qui m'aiment. Oh, mais je vais le dire pour les faits, parce que faut être direct dans ce cas-là. À ceux qui disent « aime-toi, les autres vont suivre », on répond « non, imbécile ». Pourquoi? Les autres seront trop occupés à s'aimer eux-mêmes, seront trop préoccupés par eux-mêmes. Chacun dans son petit coin en train de s'aimer. Il n'y aura personne pour te suivre avec cette philosophie-là. Comprenez-vous? Elle se désagrège. Elle ne peut pas se tenir debout, cette pensée. Cette pensée, c'est une tromperie. Par définition. Aime-toi et les autres vont suivre. Ben non. Les autres aussi vont être en train de les chercher à s'aimer pour que les gens les suivent. Il n'y aura plus personne pour suivre. C'est la tromperie de ce monde. Pour que quelqu'un qui unifie, pour qu'un unificateur puisse à long terme réussir à unifier, il doit être quelqu'un qui est altruiste. Il doit aimer les autres. Et qui est celui qui a prouvé son altruisme? Qui a prouvé qu'il n'était pas égoïste? Qui a prouvé qu'il... Parce que si tout le monde essaye de prendre, en fin de compte, puis d'être un peu plus au-dessus des autres, ben on se cale tous, hein? Jésus était celui qui donnait. Comment est-ce qu'on sait? Il l'a prouvé sur la croix. Regardez dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Le fait que Jésus ait prouvé qu'il est altruiste, il ne pense pas à lui-même, il pense aux autres. Alors ça vaut la peine de le suivre. Il l'a prouvé au plus haut point, et il ne pouvait pas le prouver plus. Il a prouvé qu'il est altruiste. Verset 5. D'ailleurs, on se rappelle dans Philippiens 2, c'est là ce que Paul commence à dire, ne pensez pas à vous-même, là. Ne faites rien par esprit de parti ou par vain de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, la manière de penser qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, après s'être fait homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a prouvé qu'il nous aimait, et qu'il n'a pas cherché son propre intérêt. Est-ce qu'il a dit à son Père, « Dieu, tu m'envoies sur la terre, mais qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Je pars de mon beau ciel riche, propre, pur, saint, rien de mal, aucune tromperie. Et là, je m'en vais dans cette place de tromperie, d'égoïsme et de saleté, de perversion. » Ah, qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Il a dit, ok, je vais tout perdre. Je vais gagner tout à la fin. Mais là, je vais tout perdre parce que je les aime et je veux les sauver. Regardez dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Page 816, verset 10, Jean 10, verset 10, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et dites-le avec moi, et qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce que Jésus avait à cœur notre intérêt quand il a accepté de se mettre sur la croix? Il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, l'abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit, les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Qui est-ce que le mercenaire a à cœur? Quels intérêts est-ce que le mercenaire cherche à protéger? Les siens. Les brebis là. C'est pas moi, c'est pas, non, c'est ma vie qui compte. Je cours, je m'enfuis. Mange les brebis, moi je m'enfuis. L'égoïsme du mercenaire est en contraste avec l'altruisme du bon berger. Le bon berger, il dit, je suis le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis. Et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, le seul qui peut unifier, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a prouvé qu'il ne va pas nous tromper par ensuite ou nous détruire. On peut se rallier à Jésus-Christ et savoir que nos intérêts sont protégés. Jésus l'a prouvé sur la croix. Jésus est le seul qui peut unir pour l'éternité. C'est lui qui peut nous sauver de la mort à cause de nos péchés. Maintenant, pensez à ceci. On parle d'unifier ou on parle d'aller dans sa propre direction. Où est-ce que ça nous mène d'aller dans notre propre direction? Chacun suivait sa propre voie, mais où est-ce qu'elle nous amène cette voie-là? Avez-vous pensé à l'indépendance? Oh non, moi je ne veux pas me rallier à Jésus-Christ, je vais être indépendant, je vais être ma propre personne. Je me rappelle quand je parlais à une dame et à un monsieur, à un couple, dans une étude biblique, et on parlait, dans la Bible, on parle du premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. J'ai dit, c'est comme la lune qui tourne autour du soleil, la lune ne fait pas ce qu'elle veut, elle est en orbite autour de la Terre. Et nous, on doit être en orbite autour de Dieu, tout ce qu'on fait doit être selon qui Dieu est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il vient. Mais dit, si on fait ça, on n'a plus de vie. Si on aime Dieu de tout notre cœur, on n'a plus de vie. Et justement, ce monde dit, ben, on n'a plus de vie si on aime Dieu, on veut être indépendant, on veut faire sa propre chose, on veut jouir de ce que nous on aime. Avoir nos propres rêves dans la vie, nos propres ambitions, on va se faire notre propre carrière, etc. Mais où est-ce que ça nous amène, ça, l'indépendance, de faire ce que nous on veut, puis on va être indépendant de Dieu? Vous pensez à ça? Où est-ce que ça nous amène, ça? La fin de l'indépendance, ça amène à où? Ah, ben, ça ne paraît pas en ce moment. Ça ne paraît pas où ce qu'elle nous amène. Pourquoi? Dieu est patient. Dieu est patient. Alors Dieu retient les conséquences. Mais ça nous en amène à la mort. D'être coupé de Dieu. Mais Dieu est la source de la vie. À qui est l'air qu'on respire? Dieu. Qui nous a créés?
C'est Dieu.
C'est Dieu qui nous donne l'air pour respirer. C'est Dieu qui nous donne la nourriture pour manger. C'est Dieu qui fait que nos corps restent ensemble et que tout l'univers reste ensemble. C'est Dieu qui retient toutes choses par sa parole. Autrement, pouf! Savez-vous, les scientifiques ne comprennent même pas qu'est-ce qui retient, quelle est la force qui retient les atomes ensemble. Vous savez, il y a un noyau, puis il y a des électrons qui tournent tellement vite. Mais quelle est la force qui retient ces électrons? Normalement, la force centrifuge, tchoum, on part, hein, tchoum! Mais qu'est-ce qu'il retient tout ensemble? Dieu le dit, c'est lui qui retient tout ensemble. Et quand il va arrêter de retenir tout, tout va se désagréger. La Bible dit qu'un jour, Dieu va tout détruire de cette terre, de cette création, et va en créer une autre. Mais quand on est coupé de Dieu, on est coupé de la source de la vie. Et on va être dans la mort éternelle, la seconde mort. Coupé de tout ce qui a trait à la vie. Voir, sentir, bouger, tout ce qu'on aime faire, on n'aura plus si on est coupé de Dieu. On veut être indépendant, mais on veut être attaché à lui pour jouir de tous ses biens, mais pas faire ce qu'il veut. Mais c'est un mensonge. On profite de sa patience. Parce que si Dieu nous donnait ce qu'on devrait avoir en se coupant de lui, en étant indépendant de lui, chacun suit sa propre voie, alors on devrait couper le Dieu. Si on aurait ça, ben on n'aurait plus rien, on n'aurait même plus d'oxygène pour. Ah, c'est son oxygène, lui. Pourquoi il nous la donnerait? Alors, c'est ça qu'on doit réfléchir. Couper le Dieu, c'est aussi couper de la lumière. C'est lui qui est lumière. On serait dans la nuit sombre. Et on va l'être un jour. Pour ceux qui sont perdus, ils vont l'être un jour. Moi, je ne le serai pas. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur par pure grâce qu'il m'a sauvé. Coupé de toute consolation, et là, le maintenant, là, je veux vraiment avoir votre attention, on veut être indépendant de Dieu parce qu'on veut suivre sa propre voie. Où est-ce que ça nous amène? À une solitude éternelle. Une solitude! Il y en a qui aiment être seuls, mais à un moment donné, il y a des limites hein, d'aimer être seul. À un moment donné, quand on est trop seul et qu'on ne voit plus personne, jamais, bah... En disant, on a fait des trucs comme ça. Mais Dieu nous dit dans Luc 16 que dans le séjour des morts, dans le lieu de, de souffrance, il n'y aura pas de consolation. Dans Luc 16, Jésus nous donne l'histoire de Lazare, qui dans son lieu de souffrance, Dieu avait permis qu'il puisse voir Abraham de l'autre côté du ravin, et dire, hey, envoie-moi quelqu'un, envoie-moi de Lazare. Enfin, c'est pas Lazare, c'est l'homme riche, pardon. Lazare, c'est celui qui était dans le sein d'Abraham. L'homme riche qui dit, envoie-moi Lazare pour qu'il tranche son doigt dans l'eau, puis mette-toi une goutte. Mais pourquoi il n'a pas donné de l'eau à son voisin? Il n'était pas seul dans celui-ci. Mais parce qu'il n'y a aucune consolation venant des autres dans le lieu du séjour des morts. En enfer, dans le lac de feu, il n'y aura aucune consolation d'autres damnés. Tout le monde sera seul, seul éternellement. Alors, quand on pense à ce sujet de unifier ou de chacun suivre sa propre voie, on doit penser aussi à ce que Dieu avertit contre la conséquence éternelle de fondamentalement suivre sa propre voie. Un jour, on va l'avoir, notre propre voie, et on va réaliser qu'elle n'est pas bonne, notre propre voie. C'est une solitude dans la noirceur, dans la souffrance, de tout séparer de tout ce qui est bien. Et c'est pour ça que c'est la souffrance éternelle. C'est pourquoi Dieu, il veut nous sauver de cela et nous unifier. Pas pour rester esclaves de nos péchés, de notre égoïsme, mais pour commencer à dire, ok, non, je ne veux pas être égoïste comme je l'étais quand j'étais perdu. Je veux maintenant, ayant été sauvé, avoir la pensée de Jésus-Christ. Et la pensée de Jésus-Christ, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont besoin des autres? Pas regarder à son propre intérêt. Fondamentalement, on a tous besoin de se rallier à Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Fondamentalement, on doit réaliser que nos péchés suivent notre propre voie, s'aimer soi-même, pensant que les autres vont suivre, parce que notamment ils foutent soi-même. L'égoïsme, c'est terrible. Le jour qu'on réalise ces choses-là, puis qu'on réalise, non, c'est insensé. Et c'est méchant. Dieu nous a créés, puis nous, qu'est-ce qu'on fait de ça avec? On veut faire notre propre petite île. On veut faire notre propre petite chose, puis on s'imagine que tout le monde devrait nous servir. On devrait avoir à sa suite tout le monde. Parce que c'est ça que ça dit. Non seulement tu peux t'aimer toi-même, mais tout le monde devrait le reconnaître et te suivre. Et c'est le mensonge. Et chacun de nous, nos cœurs sont tortueux par défaut, par nature, et on suit chacun sa propre voie. Le moment qu'on réalise et qu'on avoue devant Dieu, ok Dieu, mes péchés sont abominables, mes péchés, mon égoïsme, mon incrédulité, c'est vraiment grave. Je te demande pardon pour cela, et je ne peux pas me sauver moi-même de ce genre de cœur. Seul toi, et je ne peux pas me sauver non plus de la conséquence qui m'attend avec ce cœur-là. Mais Jésus, il a prouvé son amour pour moi, il est le bon berger qui a donné sa vie pour moi. Acceptez-le aujourd'hui de vous unir, de vous rallier à lui. Fondamentalement, donc, si vous n'avez pas encore fait ce pas-là, j'invite et Dieu vous commande de vous repentir et de croire en lui et d'accepter qu'il vous sauve de vos péchés. Maintenant, Évodie et Saint-Tiche avaient fait ce pas-là. Ils avaient vu que leur péché, leur égoïsme, leur incrédulité, puis leur indépendance d'esprit, hein, qui est la mode d'aujourd'hui dans notre société, ah, c'est grave. Ils s'étaient repentis de cela. Ils avaient accepté Jésus-Christ. Ils avaient combattu pour l'Évangile. Ils voulaient la faire connaître à d'autres. Mais ils étaient encore pris souvent par leur propre pensée. Moi, je pense que... Ben, ils m'ont dit, t'as tort, là. Hein? Écoute-moi un peu. C'est comme ça qu'on va faire ça. Ah non, mais Saint-Tiche, c'est comme ça. Pour dire arrêtez de penser à ce que vous chacun pense. Concentrez-vous maintenant sur la pensée de Jésus-Christ. La pensée de Jésus-Christ, elle va être caractérisée par quoi? Par une forte personnalité, juste à dire, moi je pense que et tout le monde devrait me suivre. Non. Dire, non, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui serait bien séant? La patience, la douceur. Regardez dans... Jacques chapitre 13. Peut-être qu'Évodie et Saint-Tiche avaient un zèle amer de dire « Hey, moi, c'est pour le Seigneur, je suis convaincu pour le Seigneur, je dois l'écouter maintenant. Je sais ce que je dis. Mon opinion, c'est pour le remercier. » C'est pas dans l'esprit de Jésus-Christ. C'est pas dans l'esprit du Saint-Esprit que Dieu a fait habiter en nous. Quel est l'esprit du Saint-Esprit? Regardez Jacques 3, 13 à 17, à 18. Jacques 3, c'est page 922. Page 922. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Jacques pose la question, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Quand Paul est obligé d'écrire à Évodie et Saint-Tiche, c'est parce qu'il y avait un degré de dispute. Elle s'était faite une réputation que chacun suivait sa propre pensée, puis il y avait des flamèches. Il ne suivait pas une sagesse qui vient d'en haut, il suivait une sagesse qui vient d'en bas, dans ces domaines-là, dans ces choses-là. Verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle s'adonne à aucune perversité. Perversité morale. Elle est premièrement pure. Elle ne s'adonne pas à la pornographie en secret. Ça va se révéler. Quand David avait été confronté, ayant été adultère et ayant caché son péché, au lieu de s'en repentir, il l'avait caché, il avait encore un cœur impur. Il avait un zèle amer. Quand Nathan lui a donné l'histoire de quelqu'un qui avait une pauvre petite brebis, l'homme riche en avait beaucoup, et l'homme riche prend la pauvre petite brebis, « Oh, David !» se fâche d'un zèle. Mais David n'avait pas la sagesse d'en haut. Elle n'était pas pure. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante. En anglais, c'est traduit, c'est intéressant. Facile de se faire demander. C'est-à-dire facile à se faire raisonner. Facile, c'est pas difficile. Conciliante. Conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice, il se met dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ah. Et vous dites, Saint-Tiche, il manque de l'huile. L'huile qui vient du Saint-Esprit pour faire que la machine, quand elle tourne, elle ne faut pas beaucoup de friction, plus de chaleur, tout ça. On a besoin d'huile dans le moteur pour que ça tourne bien. Là, le moteur d'Évodie Saint-Tiche est flamèche, il manquait d'huile. Chacun pensait à « moi je pense que, moi je pense que ». Non, 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 oubliez ce « moi je pense que ». Qu'est-ce que Dieu pense? Quelle est la perspective de Dieu? Quel est le même sentiment en Jésus-Christ? Quelle est la manière que Jésus-Christ, est-ce qu'il vraiment s'attacherait à « non, moi, je pense que c'est vraiment ceci, j'ai mon opinion de fait là-dessus. Ça, c'est mon intérêt qui est en cause ici. » Non. Conciliant. D'où considérer l'autre, comment est-ce qu'on peut faire marcher la chose selon le besoin de l'autre. Pas que quelqu'un comme ça n'a jamais une sainte colère, ne se tient jamais debout pour rien, non. Jésus s'est tenu debout, Jésus a confronté les pharisiens, Jésus a renversé les tables, il y avait un temps, mais c'est pas comme ça qu'il a commencé. Ça c'était l'accumulation, et à un moment donné, là il leur montre le sérieux, et c'était pas ses propres intérêts, c'était la maison de Dieu, son père. Au niveau personnel, il a accepté de se faire injurier, sans rétorquer, sans donner une baffe en retour. Il s'est laissé, sans maudire, être cloué sur un coin injustement. C'est cet esprit de dire « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Au lieu de l'amertume, de dire « oh, ça me fâche », il y avait cette douceur qui manquait entre Évodie et Saint-Tiche. Cette douceur de penser « ah, c'est pas mon idée qui compte là-dedans, qu'est-ce qui serait bien de faire dans la situation? Qu'est-ce qui plairait à Dieu dans la situation? » Alors Paul les exhortait. Et vous dites, Saint-Tiche, peut-être fondamentalement, vous avez refusé, vous vous êtes détourné de votre égoïsme. Très bien. Vous avez combattu pour l'évangile, très bien. Mais même en tant que chrétien maintenant, on a besoin de penser encore plus, de nous unifier derrière la pensée de Jésus-Christ. C'est d'avoir la pensée de Jésus-Christ qui va nous permettre de nous rallier ensemble, de nous entendre ensemble, de nous unir ensemble à la cause de l'évangile, à la cause de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est vraiment le seul et grand unificateur. Et l'apôtre Paul qui lui-même dit, je ne suis pas arrivé, j'oublie ce qui est en arrière, je ne me crois pas être arrivé, mais je continue à apprendre. On a tous besoin, si on s'est converti, on a tous besoin de dire, hey, continuons à nous humilier, continuons à chercher l'intérêt des autres, continuons à penser comment est-ce que Jésus-Christ penserait dans cette situation-là, pour une cause, et la cause est Jésus-Christ, la cause de Jésus-Christ. Qu'en est-il de vous ? Paul, il rallie le pasteur, cher collègue, et aide-les. Aide-les, elles qui ont combattu avec moi. Et il finit en disant, non seulement elles ont combattu avec moi, avec d'autres, mais leur nom est écrit dans le livre de vie. Ah oui, ils étaient sauvés, leur nom était écrit dans le livre de vie. Ils avaient encore des choses à apprendre pour ne pas avoir des flamèches ensemble, avoir la pensée de Christ. Mais leur nom est écrit dans le livre de vie. Alors laissez-moi vous demander, est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que vous êtes certain que votre nom est écrit dans le livre de vie? Comment est-ce qu'on peut savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie? Ah, est-ce que Jésus est notre sauveur? Si Jésus est notre sauveur, c'est lui qui se charge de l'écrire dans le livre de vie. C'est... On peut tremper là-dessus. Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce qu'il y a un jour vraiment clair où ce que vous avez accepté d'avouer devant Dieu que vous êtes perdu? Coupé de Dieu en esprit. Ennemi de Dieu par vos actions, ennemi de Dieu par vos incrédulités. Peut-être ça fait longtemps que vous allez à l'église, mais aller à l'église, ce n'est pas ça qui sauve en soi du tout. Combien de gens vont dans une église en Guyane et qui ne sont pas sauvés? Ce n'est pas la religion qui sauve. Est-ce qu'il y a eu un jour précis que vous avez accepté d'avouer devant Dieu, oui Dieu, je suis perdu. Si je meurs maintenant, je m'en vais en enfer. C'est toi qui le dis, j'ai aucun doute là-dessus. Mais Dieu, je ne veux pas aller en enfer, j'ai besoin d'un sauveur. Maintenant, je comprends maintenant. Ça fait longtemps que je l'ai entendu, mais longtemps que je l'ai ignoré. Ou longtemps que je n'ai pas vraiment fait attention. Mais maintenant, je comprends, Jésus est mort à ma place pour tous mes péchés. Il est ressuscité. Et il m'offre la vie. Maintenant, je l'accepte, Dieu. Je crois, je mets ma confiance. Avez-vous passé par ce moment où vous avez consciemment mis votre confiance en Jésus parce qu'il est mort pour vous? Sinon, faites-le même ce matin pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Convertissez-vous à lui. Détournez-vous de suivre votre propre voie. Ralliez-vous à Jésus-Christ. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Pour ensuite commencer à apprendre comment dans la vie de tous les jours et dans le service avec les frères et sœurs, comment apprendre à avoir un même esprit, un même sentiment dans le Seigneur. La conversion, c'est juste un début. Commencez à apprendre cela. On va prier. Seigneur Dieu, touche les cœurs, on te prie. Tu connais chacun où ils sont rendus, Seigneur, s'ils sont toujours perdus dans leurs péchés ou s'ils sont vraiment sauvés, on te prie que tu puisses toucher les cœurs. Seigneur, pour ceux qui sont toujours perdus, que tu puisses peser lourd sur leurs cœurs. Qu'ils puissent réaliser et admettre devant toi la gravité de leur péché, de leur incrédulité, et qu'ils puissent vraiment d'un cœur repentant, d'un cœur triste, te demander de les sauver par la foi, et mettre leur confiance en toi, et accepter donc ce salut si merveilleux que tu as déjà payé pour, une fois pour toutes, sur la croix du calvaire. Oh Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui puisse être un jour de repentance, un jour de salut pour une ou plusieurs personnes, Seigneur Dieu, je te supplie. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui professons avoir passé par là, qui professons avoir mis notre confiance en toi, on te prie qu'on puisse grandir, qu'on puisse ne pas chercher notre propre intérêt, être distrait par les choses de ce monde et nos propres désirs, et qu'on puisse renoncer à soi-même, penser à la manière que Jésus-Christ pensait, penser comme Jésus-Christ, renoncer à nos propres manières de penser, comme Évodie et Saint-Hilaire étaient exhortés de le faire. On te prie donc que tu puisses travailler dans chacun des cœurs selon le besoin, au nom de Jésus. Amen.